Dans le cadre de la semaine de précarité menstruelle intitulée « Sans tabou » et co-organisée par deux associations étudiantes, les Roadrunners et LHD Block, on vous propose une discussion autour de la précarité menstruelle et de l'endométriose en compagnie d'étudiantes de l'Université d'Artois. Mediana, secrétaire de l'association LHD Block, Laura, à l'origine de cet événement, et Mathilde, ex-présidente de l'association LHD Block, atteinte d'endométriose. On est à l'Université d'Artois, donc sur la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle, intitulée « Sans tabou ». Autour de cette table, on accueille pour un débat Laura, donc, qui est à l'origine de cette semaine de sensibilisation.
Eh oui.
Et puis Mathilde qui est là pour intervenir et faire un débat sur la précarité menstruelle et la gratuité aussi. Et puis Mayana qui est là également et qui fait partie de l'association LHD Block aussi pour parler de ce débat. Donc je vais passer tout d'abord la parole à Laura qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a mis en place à l'Université d'Artois justement pour subvenir aux besoins des étudiantes.
Pour subvenir aux besoins des étudiantes, nous on avait déjà mis en place des boîtes distributeurs de protection hygiénique. Ça pouvait répondre à un problème de précarité étudiante possible en apportant justement un outil de secours, on va dire. Et puis on poursuit cette action avec la semaine sans tabou, comme tu l'as dit, pour sensibiliser les étudiants autour des questions plutôt économiques, écologiques, sociales, et puis autour de tout ce qui est maladie gynécologique, par exemple.
Mathilde, donc toi, tu es intervenante aujourd'hui, alors tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi tu interviens.
Alors je suis étudiante en deuxième année de master à la fac de droit de Douai, et je suis venue pour parler de précarité menstruelle. Donc précarité menstruelle, on peut englober plein de choses là-dedans. C'est surtout le difficile, enfin l'accès difficile parfois aux protections hygiéniques pour certaines étudiantes ou pour toutes les femmes. Et je pense qu'en tant qu'étudiante, on est vachement touché par l'accès aux protections hygiéniques, surtout quand, enfin, je parle pour ma part, mais je pense que je suis pas la seule. Enfin, peut-être que les filles pourront me répondre. Mais souvent, on fait le choix de nos protections aussi en fonction du prix. Et parfois, on ne peut pas toujours prendre ce qu'il y a de meilleur ou autre. Peut-être qu'on pourra en reparler juste après.
Alors, Laura disait qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place à l'Université d'Artois. Est-ce qu'à l'Université de Douai, ça existe ?
Nous, on a juste une boîte, c'est une petite boîte à chaussures où toutes les étudiantes, dès qu'on en a trop, on vient en déposer. Comme ça, s'il y a besoin, on peut venir se servir dans cette boîte dans les toilettes. Mais c'est juste dans un seul toilette et ça vient de la part des étudiants. C'est pas forcément une association ou autre.
Ouais, c'est une boîte à dons.
Voilà, c'est ça.
Mélina, ton avis là-dessus ?
Moi, ça me sert beaucoup, la boîte qui est à l'Université d'Artois, parce que, en fait, j'ai des règles très irrégulières. C'est un gros problème parce que parfois, ça peut arriver en un mois, je les ai deux fois, ou parfois, je les ai même pas. Et en fait, elles arrivent alors même que parfois, j'ai pas du tout de douleur. Donc, je peux pas du tout prévenir. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, du coup, de pouvoir utiliser justement les tampons ou les serviettes qui étaient disponibles. Parce que quand ça nous tombe dessus, on l'avait pas du tout prévu. Bon, certaines personnes pourraient dire « Oui, mais bon, t'as l'habitude, donc tu devrais toujours avoir des tampons dans ton sac. » On n'y pense pas forcément. Et du coup, c'est super bienvenu. Et tout à l'heure, tu parlais du prix. Effectivement, c'est un peu ce qu'on regarde en premier parce que on est étudiant. Et donc... On ne va pas pouvoir forcément se tourner vers des dispositifs plus chers et qui seront peut-être meilleurs pour notre santé.
Je suis d'accord. Puis, moi, personnellement, comme j'ai des règles très hémorragiques et j'ai des petits... J'ai de l'endométriose. Donc forcément, des fois, une fois, j'ai saigné un mois complet, en fait, non-stop. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros coût au niveau des protections hygiéniques parce que tu dois... Enfin, on achète beaucoup plus que ce qu'on est censé acheter... pour une semaine, quoi.
Et alors, tu parles d'endométriose, c'est aussi un sujet qui a été abordé lors de cette semaine. C'est quoi tes symptômes ? Parce qu'on évoquait hier avec Cyrielle, qui avait fait l'intervention et son témoignage, que chaque femme est différente et ont des symptômes différents. Toi, c'est quelque chose de sévère ou
J'ai l'endométriose et j'ai aussi ce qu'on appelle l'endométriose interne. Donc c'est l'adomémiose en fait. Ah. Donc j'ai des adhérences à l'extérieur et à l'intérieur de l'utérus. Donc forcément, c'est ça qui va provoquer des règles très hémorragiques quand je les ai. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai coup parce que même l'endométriose, quand on est étudiante, bah, ça demande des soins aussi spécifiques qu'on ne peut pas forcément s'offrir. Même la pilule. Enfin, moi, je dois prendre une pilule spéciale pour l'endométriose et elle ne fait pas partie des pilules qui sont remboursées, par exemple. Et elle est assez chère quand même. Enfin, quand on est étudiant, on n'a pas envie de dépenser 40 euros pour une pilule, quoi.
Ah oui.
On a d'autres priorités.
Et du coup, une question qui me vient à l'esprit, comment ça se passe avec les services médicaux des universités, en fait ? Est-ce que, ils vous aident aussi à ce niveau-là ou,
Moi, j'en ai même pas. Enfin, j'en parle pas forcément.
Ouais.
Enfin, je vais pas voir les services médicaux de l'université personnellement.
Et eux, ils viennent pas forcément à vous aussi. Il y a des petits
temps de sensibilisation. Après. Ouais. C'est une invitation à aller éventuellement prendre rendez-vous avec le médecin qui a la fonction d'un médecin normal, qui peut faire des ordonnances pour aller chercher en pharmacie. Mais après, ça passe pas au-dessus du cadre. Si c'est pas remboursé, il peut rien faire pour ça. Quoi. Mmh.
Mmh. Ouais, je trouve ça dommage parce que même, moi je sais que pour atténuer mes douleurs, je dois aller voir un ostéopathe ou autre, et c'est vrai que c'est assez onéreux. Je dois payer 50 euros la séance, ça va, j'ai une bonne mutuelle. Mais on doit quand même, c'est un coût quand même, et je pense que tout le monde pourrait pas se le permettre. Même des fois, on parle que l'endométriose, on peut le soigner par des voies plus naturelles, en voyant un naturopathe ou d'autres choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est un tarif que, en tant qu'étudiant, on se prive de voir un médecin comme ça spécialisé qui est pas forcément remboursé ou pris en compte encore sérieusement comme voie de guérison, pour soulager les douleurs d'endométriose, quoi. Mmh. C'est vrai que du coup, on n'ose pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. On se dit que c'est plutôt réservé à ceux qui travaillent, etc. Et qu'en tant qu'étudiant, on se prive de ces soins-là.
On évoquait aussi avec Cyrielle, lors de son témoignage, que l'endométriose, ça impacte énormément la vie sociale, la vie professionnelle également. Est-ce que toi aussi, tu ressens... Est-ce qu'elle évoquait, qu'elle changeait d'humeur à chaque moment, est-ce que toi aussi t'es confrontée à ce problème ?
Moi, c'est pas changement d'humeur, mais c'est beaucoup de fatigue.
Fatigue.
Ouais, j'ai beaucoup de fatigue chronique. Après là, j'ai une nouvelle pilule qui m'aide beaucoup et ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup de chance que ça fonctionne, mais je sais qu'avant, j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps alitée, et quand j'avais mes règles, je ne pouvais pas bouger du lit du tout, quoi. Et c'était compliqué parce que moi, j'ai un job étudiant à côté et j'ai pas forcément envie d'en parler à mon patron en disant écoutez. Je peux pas me lever, je peux pas bouger parce que j'ai mes règles. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Mmh. C'est pas encore pris très au sérieux. Donc, du coup, quand c'est comme ça, moi, je prenais sur moi, je prenais bien les Antadis et je mettais des bandes chauffantes, vous savez, autocollantes, là, sur le ventre et sur le dos,
les patchs,
pour pouvoir marcher. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'en parler encore dans le milieu professionnel. Après, j'essaye d'en parler librement, avec les personnes de ma classe, je m'en cache pas que j'en ai, parce que je me dis que c'est un moyen à d'autres personnes de se dire peut-être que j'ai ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'endométriose et qui ne le savent pas forcément. Et du coup, je me dis d'en parler librement et de pas s'en cacher, c'est un moyen aussi de faire de la prévention. Mais après, je me vois pas non plus d'aller de moi-même voir mon patron dire j'ai de l'endométriose, donc pour moi, quand j'ai mes règles, je peux pas travailler.
Mmh. D'où l'importance aussi d'être bien entouré également,
oui,
et d'avoir un cercle d'amis qui comprennent exactement pour pouvoir expliquer les choses. On revient sur ce que tu as mis en place à l'université, Laura. Ça a été compliqué de mettre ça en place ou l'université a vraiment joué le jeu du début jusqu'au bout ?
On a eu la chance que ce projet arrive en même temps que... Malheureusement, le Covid est donc une certaine précarité étudiante très présente et il fallait absolument répondre à ce besoin. Donc c'est un projet qui a été très bien accueilli, qui a été soutenu aussi. Mais comme tout projet, j'ai envie de dire, qui tend à être pérenne, il a fallu faire une phase de test, il a fallu prouver que ce dispositif allait servir et qu'il allait être utilisé de manière... convenable, qui n'allait pas avoir d'abus, qui n'allait pas. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on répond vraiment à un besoin et que le stock s'écoule de façon absolument normale. Après, on a eu aussi la chance d'avoir le soutien du département, qui pour le coup, nous ont aidés à la fois financièrement, mais aussi en commission à discuter avec les représentants de l'université pour montrer un petit peu les besoins du projet et puis montrer que c'est nécessaire, quoi, et urgent surtout.
On revient justement à l'endométriose parce que ça tombe bien, ce matin, dans le journal de La Voix du Nord, il y avait un article qui disait qu'il y avait en phase de test, hein, une sorte de test salivaire qui va être mis en place pour la détection de l'endométriose au CHU de Lille. Je ne sais pas si tu es au courant.
Oui, j'ai vu passer l'information.
Et du coup, est-ce que ça pourrait éventuellement, parce que plein de femmes peut-être ne savent pas qu'elles sont atteintes d'endométriose, parce que tout le monde, on en parlait encore avec Cyrielle hier, elle disait que oui, on a des règles douloureuses, c'est normal, parce que ça fait mal. Et forcément, c'est pas forcément que des règles douloureuses, c'est aussi l'endométriose qui est sous-jacent.
On dit beaucoup aussi que l'endométriose, c'est une maladie des règles, mais enfin, je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est une maladie qui est reliée aux règles, mais on a pas mal seulement pendant nos règles, on a mal tout le reste du mois dans la plupart des cas. Je trouve que c'est important qu'on en parle de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent sans le savoir et le parcours de diagnostic est assez long. Même moi, quand on me l'a diagnostiqué, en fait, j'avais des symptômes depuis très longtemps et je me suis jamais dit c'est ça en fait. Je me disais ça arrive aux autres ou il n'y en a pas beaucoup et on sent pas que c'est ça. Enfin, moi, j'ai su j'en ai parlé à mon médecin parce qu'on en parlait de plus en plus justement. Et c'est comme ça qu'on a pu faire les tests. Et j'ai de la chance, je suis très bien tombée sur un médecin qui est très bienveillant, qui a tout de suite accepté de faire les tests parce que c'est vrai que même les médecins avant étaient très peu formés sur le sujet en fin de compte. J'ai une amie qui est étudiante en médecine. Elle a un cours qui est dédié maintenant à l'endométriose alors qu'il y a encore quelques années, ça tenait en deux lignes de cours. Mmh. Donc forcément, les médecins font pas forcément le rapprochement des symptômes avec l'endométriose. Et puis parfois, on est aussi mal considéré, on nous dit souvent que c'est dans notre tête aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Est-ce que tu as espoir que ça évolue? Parce que là, il y a le test quand même qui vient de sortir. Mmh. Il n'a pas encore été validé par la Haute Autorité de Santé, parce qu'il faut faire plus de tests, on va dire, pour qu'il soit validé. Et le gouvernement qui vient de lancer justement une commission là-dessus
pour essayer de faire rentrer l'endométriose dans les ALD, oui.
C'est ça. Et pourtant, tous les traitements qui peuvent être utilisés pour l'endométriose, le gouvernement n'a pas voulu accepter de les rembourser. Oui. Et ça, c'est très récent aussi. Est-ce que tu as quand même espoir qu'avec justement ce comité un petit peu de discussion et puis ce test, ça fasse changer les choses?
J'espère déjà, le test c'est une bonne chose parce que je pense que ça permettra aux femmes de facilement se faire diagnostiquer. Attendons de voir les résultats, mais c'est vrai que ça peut être un bon moyen. Et oui, il faudrait que les choses elles avancent quand même parce que pendant longtemps c'était une maladie où c'était tabou, fallait pas en parler, parce que forcément ce qui touche l'utérus des femmes entre guillemets c'était tabou avant. Même moi quand j'essayais d'en parler à ma famille, savoir s'il y avait des antécédents ou des choses comme ça pour savoir d'où ça venait aussi l'endométriose quand j'ai été diagnostiquée, on n'en parlait pas en fait. Mmh. Personne ne nous en parlait, même avant les médecins. C'est récent qu'on parle plus des maladies gynécologiques, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense que continuer d'en parler et rendre la chose moins taboue et les rendre, en parler naturellement comme si on avait autre chose, je pense que ça fait aussi avancer les choses.
Ouais, c'est pas forcément génétique. Hein.
Non, pas forcément, c'est vrai.
Beaucoup de médecins pensent que c'est génétique, mais en fait, non. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel âge, apparemment. Ouais. Endométriose, donc, tu parlais de tests. S'il y a des auditrices qui nous écoutent et qui se demandent si elles doivent les faire, ça consiste en quoi les tests exactement pour démocratiser un petit peu la chose, qu'ils n'aient pas peur d'aller justement faire des tests. Comment toi, quel test tu as suivi pour
Moi, je suis juste allée chez ma gynécologue. C'était la première fois que j'y allais. Et en fait, je sentais que j'avais des douleurs qui étaient vraiment... j'avais toujours eu mal, mais je commençais à avoir des douleurs et des crises de douleurs en dehors de mes cycles. Et avoir un ventre un peu gonflé, ça c'est un des symptômes de l'endométriose, un ventre assez gonflé, comme si on était enceinte en fait. Et donc du coup, je suis allée voir un gynécologue et tout de suite, elle m'a dit, c'est une échographie, donc sur le ventre et puis une échographie pelvienne. Et ensuite, j'ai dû passer un IRM.
Ah, d'accord.
Voilà. D'accord. Okay. En fait, l'échographie pelvienne, c'est pour voir si on a de l'adomémiose, s'il y a des adhérences à l'intérieur de l'utérus. Mmh. Et l'IRM, ça va permettre de voir s'il y a des adhérences en dehors, à l'extérieur. Parce que les adhérences, ça peut être sur l'utérus, mais ça peut aussi toucher les autres organes.
Médina, qu'est-ce que tu penses de voilà, ce témoignage, on va dire? Et en même temps, est-ce que toi, t'es confrontée aussi à ça? Est-ce que tu connais des...
J'ai une amie qui souffre d'endométriose. Je trouve que malheureusement, c'est une maladie très peu connue. Par exemple, j'ai longtemps pensé que ma sœur en souffre aussi, mais elle a peur d'aller chez le gynécologue et de faire des tests. Peut-être qu'elle a peur de se confronter à ça. Mais je sais qu'elle est tout le temps couchée quand elle a ses règles. Enfin, c'est impossible. Moi, je n'ai jamais fait de test, honnêtement. J'ai des douleurs, mais j'ai l'impression que c'est comme tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est assez mal informés. Et comme il y a un tabou autour même des règles de la femme en général... Hein, on a l'impression que on a mal, c'est normal et c'est tout quoi. Donc c'est vrai qu'on pense pas forcément à faire des tests et à se dire bon, peut-être que je souffre d'une maladie ou on n'y pense pas en fait parce qu'on voilà, il y a ce tabou. Malheureusement.
Pour terminer, hein, on parlait de gratuité des protections hygiéniques, etc. Est-ce que justement, ce serait pas aussi le moment peut-être que tout soit remboursé directement par la sécurité sociale hein, pour les femmes, parce que finalement, vous en pensez quoi?
Le problème, c'est que c'est pas un dispositif médical. Donc à partir de là,
Enfin, moi, je pense que ça devrait être remboursé. Comme on n'a pas choisi non plus d'avoir nos règles, ça nous a imposé. Enfin, vraiment, on est confronté à une dépense que, les hommes n'ont pas à faire, quoi.
Je comprends tout à fait. merci à vous trois pour ce petit débat. Et puis, on espère quand même que les choses vont bouger et puis que cette maladie va finalement titiller un peu les oreilles de plein de spécialistes. Et puis, le gouvernement aussi, on attend de voir si les propositions de loi qui sont en cours vont être acceptées ou validées ou pas.
C'était une discussion autour de la précarité menstruelle et de l'endométriose qui s'est déroulée à l'Université d'Artois dans le cadre de la semaine de précarité menstruelle intitulée « Sans tabou », co-organisée par deux associations étudiantes, les Roadrunners et LHD Bloc. Info 30, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec votre magazine d'info locale dès demain, 7h30, 12h30 et 18h.